Nous voici réunis autour de la tombe de Maître Brown fils. Un siècle après l'incendie mystérieux qui a détruit Salem Village, le berceau de nos ancêtres, le 3 mars 1730. Cet homme austère est le véritable héros de l'histoire que je vais vous conter. Prions pour que sa présence invisible nous guide dans mon récit et nous accompagne dans nos prières.
Amen.
Bientôt, minuit va sonner. Alors, j'entreprendrai le récit des événements qui ont conduit au châtiment de notre communauté, tels que nos ancêtres qui ont survécu à l'incendie nous l'ont transmis. En 1690, la forêt de Nouvelle-Angleterre, qui entourait le village de nos ancêtres puritains, fut le théâtre de la nuit la plus étrange, la plus terrifiante, la plus éclairante aussi, qu'il ait été donné de vivre à un être humain. Cette nuit bouleversa l'existence de Maître Brown, fils de Brown l'ancêtre, en changeant radicalement le regard qu'il posait sur sa communauté, sur sa famille, sur son pays. Jusqu'à sa mort, il vécut avec le souvenir de cette nuit qui vit l'affrontement entre les forces du mal et celles du bien. Après la mort de Maître Brown, en 1730, Salem Village fut détruit par un incendie dont personne, jusqu'à ce jour, n'a pu expliquer l'origine.
Maître Brown fils, de Nathaniel Hawthorne. Adaptation, Hélène Frappa. D'après la traduction de Muriel Zaga. Une réalisation de Michel Sidoroff.
Un soir, au coucher du soleil, Maître Brown fils est sorti dans la rue de Salem Village. Après avoir franchi le seuil de sa maison, il s'est retourné pour donner un baiser d'adieu à Foy, sa jeune épouse, qui passait sa jolie tête à l'extérieur, faisant voler au vent les rubans roses de son bonnet, tout en s'adressant à son mari.
Mon cher cœur, je t'en prie, ton voyage peut attendre le lever du soleil. Dors dans ton lit cette nuit. Une femme seule est tourmentée par des rêves et des pensées telles qu'elle s'effraie quelquefois elle-même. Je te conjure, chère Marie, de demeurer auprès de moi cette nuit, entre toutes les nuits de l'année.
Foy, mon amour, entre toutes les nuits de l'année, je dois demeurer loin de toi cette nuit seule. Mon voyage, comme tu l'appelles, aller et retour, doit être fait d'ici au lever du soleil. Comment, ma douce et jolie femme, douterais-tu déjà de moi alors que nous ne sommes mariés que depuis 3 mois?
Que Dieu te bénisse alors. Souhaitons qu'à ton retour, tu retrouves tout au mieux.
Amen. Dis tes prières, chère Foy. Va te coucher au crépuscule et il ne t'arrivera aucun mal.
Le jeune homme alla son chemin. Jusqu'au moment où, prêt à tourner le coin devant l'église, il se retourna et vit le visage de Foy qui le suivait toujours des yeux d'un air mélancolique, malgré ses rubans roses. Mais ce n'était pas une nuit comme les autres. Et Maître Brown fils avait le cœur serré.
Pauvre petite feuille. Quel misérable je suis de l'abandonner pour Paris sorti. Et voilà qu'elle parle de rêve. Il m'a semblé que son visage était troublé, comme si un cauchemar l'avait averti du travail prévu pour cette nuit. Non, non, non. Cette pensée seule suffirait à la tuer. En vérité, elle est un ange du ciel descendu sur terre. Et après cette unique nuit, je m'accrocherai à ses jupes et je la suivrai au paradis.
Armé de cette excellente résolution pour l'avenir, Maître Brown fils se sentit justifié pour se hâter davantage vers son but présent et funeste. Il avait emprunté une route lugubre, obscurcie par tous les arbres les plus sombres de la forêt, qui s'écartait à peine pour laisser se faufiler l'étroit chemin et se refermait immédiatement derrière lui. L'endroit était d'une solitude absolue. Un tel isolement a ceci de particulier que le voyageur ignore qui peut se cacher derrière les troncs innombrables et les épaisses frondaisons sous lesquelles il passe, de sorte que ses pas solitaires le mènent peut-être à travers une multitude invisible.
Il pourrait bien y avoir un diabolique indien derrière chaque arbre. Et si le diable lui-même était tout près?
Tandis que Maître Brown fils regardait par-dessus son épaule, le sentier bifurqua, et en se retournant, il aperçut la silhouette d'un homme assis au pied d'un vieil arbre. L'homme, qui portait d'austères vêtements très convenables, se leva pour emboîter le pas au jeune homme.
Tu es en retard, Maître Brown. L'horloge de l'église du Vieux Sud sonnait lorsque je passais par Boston. Et c'était il y a plus d'un quart d'heure.
Foy m'a retenu un moment.
Il régnait à présent dans la forêt un crépuscule profond, particulièrement dans la région où les deux compagnons s'avançaient. Le deuxième voyageur, qui venait d'apparaître soudainement, était âgé d'environ 50 ans. Il semblait de la même condition que Maître Brown, et lui ressemblait de façon frappante, plus par son expression que par ses traits. On aurait pu les prendre pour un père et son fils. Et bien que l'accoutrement et les manières du plus âgé des deux hommes fussent aussi simples que ceux du jeune homme, l'aîné avait cet air indéfinissable d'un homme qui connaît le monde et qui se serait trouvé à l'aise à la table d'un gouverneur ou à la cour d'un roi, si ses affaires l'y avaient appelé. La seule de ces caractéristiques qu'on put vraiment qualifier de remarquable était son bâton, pareil à un énorme serpent noir, si curieusement taillé qu'il semblait presque s'enrouler et se tordre comme un vivant reptile. S'agissait-il d'une illusion d'optique accentuée par l'obscurité de la forêt?
Allons, Maître Brown, nous lambinons déjà, et ce n'est que le début du voyage. Prends donc mon bâton, si tu es si vite fatigué.
Maître Brown fils s'arrêta tout à fait.
Ami, j'ai honoré le pacte en te retrouvant ici, mais j'ai maintenant l'intention de retourner d'où je viens. J'ai des scrupules à propos de l'affaire que tu sais.
Ah oui. Continuons pourtant notre route, tout en disputant. Et si je ne te convainc pas, tu t'en retourneras. Nous ne sommes pas très loin encore dans la forêt.
Maître Brown fils reprit sa route sans s'en rendre compte.
Trop loin, trop loin. Jamais mon père n'alla dans les bois pour pareille sortie, ni son père avant lui. Nous avons toujours été une race d'hommes honnêtes et de bons chrétiens, depuis l'époque des martyrs. Et serais-je le premier du nom de Brown à suivre ce chemin, ayant pareille...
Compagnie, allais-tu dire? Bien dit, Maître Brown. Je connais aussi bien ta famille que tout autre parmi les puritains, et ce n'est pas peu dire. J'ai aidé ton grand-père, le chef de la police, lorsqu'il mena rondement à coups de fouet la femme quaker à travers les rues de Salem. Et c'est encore moi qui apportais à ton père un faisceau de pain enduit de pois, allumé à mon propre foyer, pour incendier un village indien pendant la guerre du roi Philippe. J'étais très ami de l'un et de l'autre, et nous nous sommes promenés bien des fois, fort agréablement, sur ce chemin, pour rentrer joyeusement après minuit. J'aimerais être aussi ton ami, en souvenir d'eux.
S'il en est comme tu le dis, je m'étonne qu'il n'ait jamais parlé de ces événements. Ou plutôt non, non, je ne m'en étonne guère, car la moindre rumeur de cette sorte les aurait fait chasser de Nouvelle-Angleterre. Nous sommes un peuple de prière, et qui de surcroît fait de bonnes œuvres, et nous ne pouvons tolérer pareille méchanceté.
Méchanceté ou pas, j'ai beaucoup de relations ici, en Nouvelle-Angleterre. Et bien plus de relations haut placées que tu ne l'imagines. Les diacres de bien des églises ont bu avec moi le vin de la communion. Les échevins de diverses villes font de moi leur président, et une majorité de membres de la grande cour sont de fermes apôtres de ma cause. Sans compter qu'il existe entre le gouverneur et moi. Mais... chut. Nous touchons ici au secret d'État. Et je n'en dirai pas plus.
Quoi ? Est-ce possible ? Les diacres et le gouverneur qui se compromettent avec toi ? Mais qu'ai-je à faire, moi, pauvre laboureur, avec tous ces gens haut placés ? Ni le gouverneur, ni la grande cour ne sont de mon ressort. Ils agissent à leur manière et ne sont pas des modèles pour un simple paysan comme moi. Si je continuais ma route avec toi, comment pourrais-je à nouveau regarder en face le pasteur de Salem Village, cet excellent vieillard ? Ah ! Le jour du sabbat et le jour d'exégèse, sa voix me ferait trembler de peur et de honte.
Continue! Continue donc, maître Brown! Continue avec tes scrupules et tes remords! Mais je t'en prie, ne va pas trop loin dans ta bigoterie, car je risque de véritablement mourir de rire!
Son rire irrésistible le secouait si violemment que son bâton reptilien avait vraiment l'air de se tordre à l'unisson.
Bien. Allons droit au fait, foin de bigoterie, comme tu dis. Je dois songer à ma femme, à ma chère et innocente petite Foy. Si elle apprenait qu'en ce moment même je traverse la forêt obscure en ta compagnie, cela briserait son pauvre cher petit cœur. Plutôt briser le mien.
Mais bien sûr, si tel est ton sentiment, agis comme tu l'entends, maître Brown. Je ne voudrais pour rien au monde, pas même pour 20 vieilles femmes comme celle qui avance devant nous clopin-clopant, qu'il arrive aucun mal à Foy.
Tout en parlant, l'aîné des voyageurs indiqua de son bâton la silhouette d'une femme sur le chemin. Maître Brown reconnut une dame fort pieuse et exemplaire qui lui avait enseigné le catéchisme lorsqu'il était enfant et qui était restée l'un de ses conseillers moraux et spirituels au même titre que le révérend Lowell et que le diacre Gookin.
Quelle étrangeté! Comment se fait-il que Dame Chloé se trouve ici, dans ce désert sauvage, à la nuit tombée? Avec ta permission, ami, je vais couper à travers bois, jusqu'à ce que nous ayons dépassé cette bonne chrétienne. Vous lui êtes inconnue, et elle pourrait me demander qui m'accompagne, et où je vais.
Soit. Passe par les bois. Je continuerai par le chemin.
Maître Brown, fils, s'écarta donc du chemin, mais sans perdre de vue son compagnon, qui avança lentement, jusqu'à se trouver à une longueur de bâton de la vieille dame. Cependant, cette dernière avançait à une vitesse singulière pour une femme de son âge, tout en marmonnant des paroles indistinctes, une prière sans doute. Le voyageur étendit son bâton et toucha la nuque ridée de ce qui semblait être la queue du serpent.
Le diable.
Dame Cloise reconnaît donc son vieil ami.
Et le diable, car c'était bien lui, faisait face à la vieille dame pieuse, appuyée sur son bâton qui se tordait.
Ah, par exemple.
Serait-ce vous, monseigneur? Oui, bien, c'est vous que voilà. Et sous la forme de mon vieux compère, Maître Brown, ancêtre du dadais qui porte aujourd'hui son nom. Eh bien, me croirez-vous, monseigneur, si je vous disais que mon manche à balai a bizarrement disparu, volé, j'en suis sûr, par cette sorcière bonne à pendre qu'est Dame Corrie. Et tout cela alors que j'étais toute ointe de jus d'ache, de quinte-feuille et d'aconite.
Mélangé à du blé fin et à la graisse d'un nouveau-né.
Ah, monseigneur connaît la recette. Je me suis donc retrouvée sans monture, toute prête pour l'office, et je me suis décidée à aller à pied, car on m'a dit qu'un beau jeune homme devait être reçu à la table pour la première fois ce soir. Mais maintenant, si votre aimable seigneurie me prête son bras, nous serons rendus en un éclair.
Il m'est malheureusement impossible de vous prêter mon bras, Dame Cloïse. Mais voici, si vous voulez, mon bâton.
À ces mots, le diable jeta aux pieds de la vieille femme l'objet qui s'anima, comme l'une de ces verges prêtées jadis par leurs propriétaires aux mages égyptiens. Mais Maître Brown ne put être témoin de cet événement, car il avait levé des yeux stupéfaits. Lorsqu'il les baissa à nouveau, il ne vit plus ni Dame Cloïse, ni le bâton serpentin, mais son compagnon de voyage, resté seul, qui l'attendait, impassible, comme s'il ne s'était rien passé.
Quand je pense que cette vieille dame m'a enseigné le catéchisme...
Allez, allez, hâtons-nous de traverser la forêt, car vous savez qu'on nous attend.
Ils continuèrent leur route, cependant que le plus âgé des voyageurs encourageait son compagnon à suivre assidûment le chemin, avec des arguments si bien choisis qu'il semblait issu du sein de son auditeur plutôt que suggéré par lui-même. Tandis qu'il marchait, le diable cueillit une branche de sycomore en guise de bâton et commença d'en ôter les brindilles et les petits rameaux humides de rosée du soir. Étrangement, dès que ses doigts les effleuraient, ils se fanaient et se desséchaient, comme après une semaine de forte chaleur. Les deux hommes faisaient donc bonne route, quand soudain, dans un creux obscur du chemin, Maître Brown fils s'assit sur une souche d'arbre.
Ami, ma décision est prise. Je ne veux plus avancer d'un pas dans cette sortie. Que m'importe si une misérable vieille femme choisit de suivre le démon alors que je la croyais en route pour le ciel? Est-ce une raison pour la suivre et quitter ma chère feuille?
Tu changeras d'avis tout à l'heure. Repose-toi un peu ici. Quand tu auras envie de reprendre la route, mon bâton que voici t'aidera.
Alors il lui jeta la branche de sycomore et disparut aussi vite que s'il s'était évanoui dans l'obscurité qui s'épaississait. Maître Brown fils demeura quelques instants assis au bord de la route à se féliciter chaleureusement en lui-même d'avoir pris cette courageuse décision.
Comme j'ai eu raison de renoncer à le suivre. J'ai sauvé mon âme. Demain, c'est avec une totale bonne conscience que je rencontrerai le révérend Lowell durant sa promenade matinale. Et je pourrai regarder Cooking l'Ancien droit dans les yeux, sans avoir à lui dissimuler aucun péché. Comme je vais bien dormir cette nuit. Du sommeil du juste. Dans les bras purs et doux de Foy, après avoir refusé de me livrer au diable.
Il fut interrompu dans sa méditation, aussi louable que plaisante, par le piétinement de chevaux sur la route. Et il jugea bon de se dissimuler à l'abri des arbres de la forêt, conscient du dessein coupable qu'il l'avait mené jusque-là, même s'il s'en était maintenant si heureusement détourné.
La nuit est bien claire.
J'espère juste ne pas prendre froid, comme la dernière fois.
Je me souviens qu'il faisait grand vent et que vous étiez resté alité plusieurs jours.
Faut-il que je tienne à ces escapades nocturnes, qui ne sont pourtant plus de mon âge ?
Ces sons mêlés semblaient suivre le cours du chemin, à quelques mètres de la cachette du jeune homme. Mais, sans doute à cause de l'obscurité particulière qui régnait à cet endroit, ni les voyageurs, ni leurs montures n'étaient visibles. On les entendait effleurer les petits rameaux qui bordaient le chemin, mais on ne les voyait jamais, fût-ce pour un instant, intercepter la faible lueur d'une bande de ciel illuminée sous laquelle ils avaient dû passer. Maître Brown tantôt s'accroupissait, tantôt se dressait sur la pointe des pieds, en écartant les branches et en tendant le cou aussi loin qu'il osait, mais il ne distinguait pas même une ombre.
Quel sentiment étrange de familiarité! Si je ne les savais pas occupés à préparer quelque ordination ou conseil ecclésiastique, il me semblerait bien reconnaître les voix du révérend Lowell et de Gookin, son diacre.
Les cavaliers étaient encore à portée de voix lorsque l'un des deux s'arrêta pour cueillir une badine.
À tout prendre, monsieur le révérend, je préfère manquer un dîner d'ordination plutôt que l'office de ce soir. On me dit que des membres de notre communauté venus de Falmouth et au-delà s'y trouveront, ainsi que d'autres, du Connecticut et de Rhode Island, sans compter plusieurs sorciers indiens qui, dans leur domaine, en savent aussi long en diablerie que les meilleurs d'entre nous. En outre, une accorte jeune femme doit être reçue à la table.
Tout cela est bel et bon, diacre Gookin. Et prenons, ou nous serons en retard. Vous savez que rien ne peut être fait tant que je ne serai pas sur les lieux.
Les sabots se remirent à claquer, et les voix, qui résonnaient si étrangement dans l'air vide, continuèrent à travers la forêt, où nulle église ne s'était jamais réunie, où nul chrétien solitaire n'avait jamais prié. Vers quel lieu ces saints hommes voyageaient-ils donc, au milieu d'un désert sauvage et païen ? Maître Brown fils chercha l'appui d'un arbre, car il se sentait faible au point de glisser à terre, tant son cœur accablé lui pesait.
Êtes-vous là, mon Dieu ? Ou bien suis-je seul dans cette forêt diabolique ? Par-delà ce ciel étoilé, le paradis existe-t-il ? Ou bien le monde n'est-il fait que des ténèbres qui règnent sous ces grands arbres ? Avec l'aide du ciel là-haut et de ma foi ici-bas, je tiendrai bon contre le diable.
Il contemplait encore la voûte profonde du firmament, les mains levées pour prier, lorsqu'un nuage, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent, traversa rapidement le zénith et vint masquer les étoiles scintillantes. Au-dessus de la tête de Maître Brown, l'épais nuage noir flottait rapidement vers le nord. Porté par l'air, et comme issu des profondeurs du nuage, on entendait des bruits de voix confus et difficilement reconnaissables.
Se pourrait-il que Dame Walton, avec qui je communie chaque dimanche, soit là aussi ? Et le major Endicott, ce héros de guerre, et la vénérable veuve Brooks, qui enseigne le catéchisme aux enfants.
Maître Brown avait l'impression de distinguer les voix d'habitants de Salem Village qu'il connaissait, hommes et femmes, pieux et impies. Beaucoup s'étaient trouvés avec lui à la table de la communion, et il en avait vu beaucoup d'autres mener grand tapage à la taverne. Les sons étaient si indistincts qu'il douta l'instant d'après d'avoir entendu autre chose que la rumeur de l'antique forêt, chuchotant dans l'air immobile. Puis, il vint une vague plus sonore de ces accents familiers qu'il entendait chaque jour à Salem Village, à la lumière du soleil, mais jamais jusqu'à présent dans un nuage nocturne. L'une de ces voix était celle d'une jeune femme qui se lamentait,
mais avec une tristesse incertaine, et demandait une faveur qui peut-être l'affligerait si on la lui accordait. Toute la multitude invisible, à la fois saints et pécheurs, semblait l'encourager à avancer.
Attendez ! Attendez ! Je vous en prie ! Non, franchement, laissez-moi, je ne peux plus. Je ne sais pas.
Folle ! Folle !
Alors, le nuage sombre se retira, laissant au-dessus de Maître Brown, fils, un ciel à nouveau limpide et silencieux. Mais quelque chose volta doucement dans l'air nocturne et s'accrocha à la branche d'un arbre. Le jeune homme s'en empara. C'était un ruban rose.
Ma foi, il n'est plus. À quoi pourrais-je croire désormais? Il n'est pas de bien sur cette terre et le péché n'est qu'un vain mot. Viens, démon. Viens. Car ce monde t'appartient. Hein?
Fou de désespoir, Maître Brown empoigna son bâton et reprit sa route, à telle allure qu'il semblait voler plutôt que marcher ou courir le long du chemin forestier. La route devint de plus en plus sauvage et lugubre, son tracé de moins en moins distinct, et elle finit par s'évanouir, si bien qu'il se trouva au cœur des ténèbres de la forêt primitive. Guidé par l'instinct qui pousse les mortels vers le mal, il continua d'avancer à vive allure.
Fort, qu'ils ne comptent pas m'effrayer avec leur diablerie. Qu'ils viennent donc tous, sorcières, magiciens, sorciers peaux rouges, et le diable lui-même. Préparez-vous à voir venir Maître Brown. Craignez-le donc autant qu'il vous craint.
En vérité, il n'y avait rien de plus épouvantable dans toute la forêt hantée que la silhouette de Maître Brown. Comme il était lui-même l'horreur suprême de cette scène, il ne tremblait pas devant les autres horreurs, et il volait parmi les pins noirs, brandissant frénétiquement son bâton. Tantôt, il laissait échapper d'épouvantables blasphèmes. Tantôt, il faisait entendre un rire tellement énorme que tous les échos de la forêt riaient autour de lui, comme autant de démons.
Thank you.
Le malin est moins hideux sous sa propre forme que lorsqu'il fait rage dans le sein d'un homme. L'être démoniaque avança donc en toute hâte jusqu'à ce qu'il vit trembloter devant lui, entre les arbres, une lueur rouge, comme celle d'un feu allumé dans une clairière avec les troncs et les branches coupées qui jettent des éclats rougeoyants dans le ciel de minuit. Il s'arrêta, profitant d'une accalmie de la tempête qui l'avait mené jusque-là, et entendit monter quelque chose qui ressemblait à un hymne et qui grondait solennellement au loin, porté par une multitude de voix. Il en connaissait l'air. La chorale de l'église de son village le chantait souvent. Maître Brown s'avança furtivement dans le silence jusqu'à ce que la lumière éblouissante lui permît de voir. À une extrémité d'une clairière bordée par la muraille obscure de la forêt, se dressait un rocher dont les contours naturels et grossiers rappelaient un autel ou bien une chaire, entouré de quatre pins embrasés dont les sommets brûlaient sur leurs troncs intacts comme des cierges à un office du soir. L'épais feuillage qui tapissait le sommet du rocher était enflammé et brûlait haut dans la nuit, jetant des feux irréguliers sur le champ tout entier. Chaque branche pendante, chaque feston feuillu était embrasé. La lumière rutilante dansait sans répit. Elle éclairait, plongeait dans l'ombre, puis faisait renaître des ténèbres une nombreuse congrégation qui peuplait d'un seul coup le cœur des bois solitaires.
Voilà une assemblée bien solennelle et toute de noir vêtue.
Il ne se trompait point. Dans la foule apparaissaient et disparaissaient en tremblotant, entre les ténèbres et l'éclat des flammes, des visages que l'on verrait le lendemain au conseil de la province, et d'autres qui, sabbat après sabbat, regardaient dévotement vers le ciel et contemplaient avec bienveillance les bancs pleins de monde depuis les chaires les plus saintes du pays. Certains affirment que l'épouse du gouverneur se trouvait parmi eux. On voyait là du moins de nobles dames bien connues d'elle, les épouses d'hommes honorables, des veuves venues en foule, de vieilles demoiselles, toutes d'excellente réputation, et de charmantes jouvencelles qui tremblaient de peur que leur mère ne les voie.
C'était donc eux que j'ai entendu dans la forêt. Le révérend Lowell et le diacre Gawkin, côte à côte, avec les plus misérables habitants de Salem Village, ce qu'on ne voit jamais sur les bancs de l'église, parce qu'ils passent leur vie entre la taverne et la prison.
Maître Brown fils avait beau être ébloui par les lueurs brusques et miroitantes des flammes, il avait vu juste. La foule mêlait des membres de l'église de Salem Village, célèbres pour leur sainteté exceptionnelle, doyens de l'église, fidèles, pieux et respectables, chastes d'âme, vierges fraîches comme la rosée, à des hommes aux mœurs dissolues, à des femmes de mauvaise réputation, à des misérables, abandonnés à tous les vices méprisables et répugnants, parfois même soupçonnés de crimes épouvantables. C'était un étrange spectacle. Les bons ne fuyaient pas les méchants, et les pécheurs ne se troublaient point devant les saints. Il y avait aussi, répandus parmi leurs ennemis au visage pâle, des sorciers indiens, dont les incantations, plus affreuses encore que toutes celles de la sorcellerie anglaise, avaient souvent semé la terreur dans leur forêt natale.
Mais où donc est Foy ?
La science des démons est pour les simples mortels un abîme inintelligible. On chanta verset après verset, en alternant toujours avec le cœur de la sauvage forêt, qui résonnait, pareil à l'accord le plus grave d'un orgue puissant, comme si le vent rugissant, les rivières précipitées, les bêtes hurlantes et toutes les autres voix de la forêt sauvage et païenne se mêlaient et s'accordaient avec la voix de l'humanité coupable, en hommage au prince suprême, Satan. Plus haute monta des quatre pins embrasés et révéla obscurément des formes et des visages horribles dans les spirales de fumée qui flottaient au-dessus de l'assemblée impie. Au même instant, il jaillit du sommet du rocher des flammes écarlates et une silhouette se dessina sous cette voûte brûlante. Par sa tenue et ses manières, cette silhouette ressemblait étrangement à un pasteur solennel de Nouvelle-Angleterre.
« Faites avancer les convertis !»
À ces mots, Maître Brown fils quitta l'ombre des arbres et il s'approcha de la congrégation avec laquelle il se sentait, avec tout ce que son cœur contenait de mauvais, une haïssable fraternité.
« Père ! Mère ! »
Était-ce bien la forme de son défunt père qui, du haut d'une spirale de fumée, lui faisait signe d'avancer, tandis qu'une femme, aux traits pâles et désespérés, sosie de sa mère défunte, tendait la main vers lui en signe d'avertissement.
« Allez, plus vite !»
Maître Brown fils n'eut pas la force d'obéir au fantôme de sa mère et de résister, même par la pensée, lorsque le révérend Lowell et l'excellent diacre Gookin le saisirent par les bras et le menèrent au rocher embrasé. Il y venait aussi la silhouette mince d'une femme voilée, encadrée par Dame Cloise, la pieuse enseignante du catéchisme, qui ressemblait désormais à une sorcière en furie ou à la reine de l'enfer. Les prosélytes étaient maintenant côte à côte sous le dais de flammes.
« Soyez les bienvenus, mes enfants, à la communion de votre race. Si jeunes encore, vous avez trouvé votre nature et votre destin. Mes enfants, regardez derrière vous. »
Ils se retournèrent. Alors les adorateurs du démon apparurent, comme illuminés par un voile de feu. Un sombre sourire de bienvenue brillait sur chaque visage.
« Voici tous ceux que depuis votre enfance vous avez révérés. Vous les jugiez plus saints que vous et vous vous détourniez avec horreur de vos péchés en les comparant à leur vie de droiture et aux prières pleines d'espoir qui montaient vers le ciel. Et pourtant, ils sont tous ici à cette assemblée qui me rend un culte.
Maître.
Maître.
Ce soir, vous aurez le privilège de connaître leurs obscurs forfaits. Vous allez voir les doyens de l'église avec leurs barbes blanches chuchoter des paroles lubriques à leur jeune servante. Vous allez voir toutes ces femmes, impatientes de porter le deuil, donner à boire à leur époux avant le coucher, afin qu'ils dorment dans leurs bras de leur dernier sommeil.
Vous allez voir ces tout jeunes gens se dépêcher d'hériter des richesses de leur père. Voir ces jolies jouvencelles. Ne rougissez pas, mes douces enfants. Creusez dans le jardin des petites tombes et n'invitez que moi aux funérailles de leur nouveau-né. Vous pourrez, grâce à la sympathie de votre cœur humain pour le péché, renifler partout la piste du crime, à l'église, dans la chambre à coucher, dans la rue, dans les champs ou dans cette forêt. Enfin, vous exulterez en voyant la terre entière comme une tache de culpabilité, une formidable tache de sang. Bien plus encore, il vous sera donné de pénétrer le cœur de chacun jusqu'à l'obscur mystère du péché, source inépuisable de plus d'art diabolique et de mauvais désirs que le pouvoir des hommes et le mien, même au sommet de sa puissance, ne peuvent en réaliser. À présent, mes enfants, regardez-vous.
Ils obéirent. Alors, à la lueur des torches infernales, Maître Brown, fils, reconnut sa Foy et elle, son époux, tremblant devant l'autel maudit.
Et voici. Vous êtes devant moi, mes enfants. Tant que chacun comptait sur le cœur de l'autre, vous espériez que la vertu n'était pas un rêve.
Le diable parlait d'un ton grave et imposant, que sa solennité désespérée rendait presque triste, comme si sa nature, autrefois angélique, pouvait encore porter le deuil de notre race misérable.
Cette nuit, vos yeux sont dessillés. Le mal est la nature de l'humanité et vous ne trouverez le bonheur que dans le mal. Bienvenue, mes enfants, à la table de communion de votre race. Et toi, Brown, je vous accueille et vous unis.
Les deux époux se tenaient là, seuls, dans notre monde de ténèbres, à hésiter encore au bord de l'abîme du mal. Dans le roc, un bassin naturel était creusé. Que contenait-il ? De l'eau rougie à la lueur des flammes ? Ou bien du sang ? Ou peut-être du feu liquide ? La forme du mal y plongea la main et s'apprêta à appliquer sur leur front le signe du baptême afin de leur faire partager le mystère du péché et mieux connaître la culpabilité secrète d'autrui en pensée et en acte que la leur propre. Quelles effroyables souillures dont la découverte et la révélation les feraient également frémir allaient apparaître au prochain regard.
Foy, Foy, regarde le ciel et résiste au malin.
Foy avait-elle obéi ou non ? Maître Brown, fils, ne le sut jamais. À peine avait-il parlé qu'il se retrouva seul dans la nuit calme. Il s'appuya en vacillant contre le rocher froid et humide. D'une branche qui pendait, tout embrasée quelques instants plus tôt, coulait sur sa joue une rosée glaciale. Le matin suivant, Maître Brown fils s'engagea d'un pas lent dans la grande rue de Salem Village, en promenant autour de lui le regard fixe d'un homme ensauvagé.
Bonjour, Maître Brown. Vous êtes bien matinal ce matin. Aussi matinal que votre pasteur qui médite sur son sermon du jour en longeant le cimetière. Comme nous l'ont enseigné nos ancêtres, il n'y a jamais eu de réveil dans quelque endroit que ce soit qui n'ait commencé par une prière, n'est-ce pas, Maître Brown? Soyez bénis!
Gookin, l'ancien, priait dans sa maison et on entendait par la fenêtre ouverte les paroles saintes d'une prière.
Qu'il soit de la meilleure naissance ou destiné aux tâches les plus humbles, nous te prions, ô Dieu, de nous pardonner nos péchés.
Mais quel Dieu, ce sorcier, peut-il bien prier?
Voici votre lait. Il est tout frais de ce matin.
Merci, Marie. As-tu dit ta prière?
J'attendais de la dire avec vous.
Brave petite. Viens près de moi. Nous allons prier ensemble. Salimane, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie.
Soudain, Maître Brown se saisit de la petite fille comme pour l'arracher à l'étreinte du démon.
Ah, ça, non!
Dans un état de grande confusion, Maître Brown lâcha la petite fille et tourna au coin de la rue. Là, devant l'église, il aperçut Foy avec ses rubans roses qui le guettait d'un air anxieux et qui, à la vue de son mari, descendit la rue en sautillant de joie et faillit l'embrasser devant tout le village.
Mon cher cœur, te voilà enfin revenu.
Mais Maître Brown la dévisagea avec tristesse et sévérité et il passa sans dire un mot. En lui-même, il songeait. S'était-il endormi dans la forêt? Et le sabbat de sorcier n'avait-il été qu'un cauchemar sauvage et insensé? Nous ne saurons jamais avec certitude si Maître Brown fils avait rêvé sa rencontre nocturne avec le diable dans la forêt de Salem Village. Mais quoi qu'il en soit, ce fut pour lui un songe de bien mauvais augure. En effet, dès le lendemain de cet épouvantable rêve, il devint sévère et triste, et il se mit à méditer d'un air sombre. S'il n'avait peut-être pas perdu tout espoir en l'humanité, il ne fit en tout cas plus confiance à aucun membre de sa communauté, et il s'éloigna même de sa famille. Le jour du sabbat, lorsque la congrégation chantait un hymne saint, il ne pouvait supporter de l'entendre, car un chant d'allégresse célébrant le péché tonnait à son oreille et étouffait les accords de la musique bénie.
Les Écritures, la tradition et la raison, et avec elles tu nous permets, nous qui sommes les enfants de Dieu, de nous rapprocher de toi. Sois présent auprès de tous les gens qui cherchent à mieux te connaître et à appartenir à ta communauté de foi. Transmets partout dans ce monde ton message d'amour et de paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Bien souvent, Maître Brown s'éveillait d'un seul coup à minuit et il se dégageait de l'étreinte de Foy.
Ah, ah, non. Laisse-moi.
Non. À la prière familiale du matin et à celle du soir, il marmonnait en fronçant les sourcils. Il regardait sa femme avec sévérité et se détournait d'elle.
Seigneur Dieu, transmets partout dans ce monde ton message d'amour et de paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Une femme seule est tourmentée par des rêves et des pensées telles qu'elle s'effraie quelquefois elle-même.
À la fin de sa longue vie, on porta au tombeau le cadavre chenu de Maître Brown, suivi de Foy, devenue vieille, de ses enfants et de ses petits-enfants. Dans la grande rue de Salem Village, ce fut une belle procession, sans compter les voisins en grand nombre. Pourtant, sur la tombe de cet homme aimé et respecté dans sa communauté, on ne grava pas des vers pleins d'espérance, car Maître Brown mourut sous le jour ténébreux de la mélancolie.
Notre récit s'achève. Les premières lueurs de l'aube percent déjà les ténèbres. Comme chaque année, en ce jour anniversaire, c'est à l'aîné de notre communauté que ce récit a été confié. Et comme chaque année, je vais confier à la plus jeune d'entre nous, à notre chère petite Anne, le soin de lire l'épitaphe de notre ancêtre, Maître Brown fils, qu'il avait rédigé en personne.
La vie humaine, si triste et si grave, a l'apparence extérieure d'un ornement qu'une femme porterait sur elle. Par exemple, un bijou en forme de cœur orné de pierreries. Au bout de nombreuses années, ce bijou se brise. Ou bien on l'ouvre et il en sort une odeur empoisonnée.
Chère petite Anne, et vous autres, membres de notre communauté, mes chers amis, nous nous sommes réunis ici, comme chaque année, entre la nuit et le jour, pour nous souvenir de l'incendie terrible qui détruisit le village de nos ancêtres il y a un siècle. Voilà que notre nuit de veille s'achève. Voilà que l'aube bleue gagne doucement contre les ténèbres. N'oublions jamais cette victoire de la lumière et gardons en nous le souvenir de notre ancêtre, Maître Brown, qui résista aux appels séducteurs du diable et qui en paya le prix par une vie d'amertume, de défiance, de mélancolie.
La vie humaine, si triste et si grave, a l'apparence extérieure d'un ornement qu'une femme porterait sur elle, par exemple un bijou en forme de cœur, orné de pierreries. Au bout de nombreuses années, ce bijou se brise, ou bien on l'ouvre et il en sort une odeur empoisonnée.
Et maintenant, séparons-nous. Que chacun retrouve sa vie et sa famille jusqu'à la nuit qui, dans un an, nous réunira encore et encore pour communier dans le souvenir de la défaite du diable qui advint ici, il y a un siècle, dans la forêt de Salem Village, où s'étaient égarés nos ancêtres.
Amen.
C'était Maître Brown Fils de Nathaniel Hawthorne, adaptation Hélène Frappa, d'après la traduction de Muriel Zaga. Avec William Malvin, Bernard Gabet, Maître Brown Fils, Geoffroy Lidvan, Foy Brown, Hélène Chevalier, le révérend Lowell, Alain Massé, le diable, Bernard Bouillon, le diacre Goukin, Frank Kronovsek, Dame Cloise, Morissette Gourdon, Anne et Mary, Pauline Ziadé, et les voix de Céline Schaeffer, Émilie Pierson, Janice Zadrozinski, Sophie Bourrel, Cécile Arnaud, Olivier Ruy-Davet, Didier Mérigou, Xavier Bazin, Léo Reynaud. Bruitage, Bertrand Amiel, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Réalisation, Michel Sidoroff.